l'actualité, Washington évoque le démantèlement du programme nucléaire iranien et la réouverture du détroit d'Ormuz. Les deux nerfs de la guerre, vous l'entendrez, tout autre son de cloche à Téhéran. On tentera de voir sur quoi les deux belligérants sont d'accord dès le début de ce journal. Ce seront aussi en Syrie où les artistes, les dessinateurs, les caricaturistes en exil sous le régime Assad reviennent au pays sur la pointe des pieds. Ce seront aussi en Éthiopie la crainte d'une nouvelle guerre au Tigré. En France, le Premier ministre indien Narendra Modi arrive. La France où 4 Français sur 10 ne partiront pas en vacances cette année, vous l'entendrez. Et puis enfin, jusqu'ici tout va bien, le Mexique, les États-Unis et le Canada comme à la maison, au Mondial, les trois pays hôtes qui ont très bien négocié leur entrée dans la compétition.
L'Iran et les États-Unis s'entendent sur les bases d'un accord, mais pas sur son contenu.
Pour l'instant, c'est version contre version. Pierre, Washington et les médias iraniens qui présentent des protocoles d'accord radicalement différents. Ce qui fait dire au chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi que tant qu'un accord complet n'aura pas été conclu sur toutes les questions, on ne pourra pas affirmer avec certitude qu'un terrain d'entente a été trouvé avec les États-Unis. Donald Trump s'est lui fendu d'un message musclé sur son réseau social, Truth Social. Les termes que l'Iran a fait fuiter n'ont rien à voir avec les termes convenus, a-t-il écrit. Alors sur quoi les deux belligérants sont-ils vraiment d'accord? Réponse depuis New York avec notre correspondante aux États-Unis, Karine Auton.
Ce protocole d'accord proposé prévoit la réouverture du détroit d'Ormuz que l'Iran avait fermé après les attaques lancées par les États-Unis et Israël en février, ainsi que la levée du blocus américain contre les ports iraniens, une concession pour chacun des camps en somme. Le texte prévoirait aussi une levée des sanctions américaines pour récompenser l'Iran au fur et à mesure que le plan est suivi, comme la levée des restrictions sur les exportations de pétrole brut ou le dégel des avoirs iraniens à l'étranger. Un accord qui serait donc largement favorable à la République islamique. Dans un deuxième temps ensuite, des négociations concernant le programme nucléaire iranien interviendraient. Washington et Téhéran auraient ainsi 2 mois pour s'entendre sur ces points qui restent épineux, comme le démantèlement du programme nucléaire iranien ou le devenir de son uranium enrichi. Karine Auton, New York, RFI.
Un accord qui divise aussi en Iran entre ceux qui sont pour trouver un terrain d'entente et ceux qui ne veulent rien lâcher autour du détroit d'Ormuz et sur le dossier du nucléaire. Voilà les lectures qu'en fait Sébastien Boussois, docteur en sciences politiques, chercheur sur le Moyen-Orient. Il était tout à l'heure votre invité, Pierre Boudias.
Tous les Iraniens au pouvoir ne sont pas sur la même longueur d'onde. Certains, plus modérés, réformateurs, veulent passer à autre chose et signer un accord, je dirais pas coûte que coûte, mais en tout cas pour pouvoir revenir dans une situation à la normale, entre guillemets. D'autres veulent aller jusqu'au bout et considèrent qu'il n'est hors de question de lâcher notamment Ormuz et le nucléaire, qui sont les deux assurances-vie du régime iranien. À chaque fois, je dis toujours, qu'est-ce qui peut suffisamment faire peser dans la balance pour que le régime iranien puisse lâcher ses deux assurances-vie? Et ça, c'est véritablement une question qui reste encore entière pour moi, tant que l'accord n'est pas définitivement signé.
Téhéran, le médiateur pakistanais, et Washington, qui ont tout de même hier affiché leur optimisme quant à la possibilité de conclure un accord mettant fin à la guerre au Moyen-Orient. Et ce, après des semaines de négociations laborieuses et d'espoirs déçus. Une guerre qui se poursuit sur le terrain. Les États-Unis disent avoir abattu plusieurs drones iraniens dans le détroit d'Ormuz.
Un accord qui doit inclure le Liban, insiste Téhéran.
Le Liban entraîné dans la guerre depuis le 2 mars. Hier, le Hezbollah pro-iranien a affirmé que ses combattants avaient affronté des forces israéliennes qui progressaient vers une ville du sud du pays, proche de la frontière israélienne. L'armée de l'État hébreu qui a, elle, émis un appel à évacuer 3 villages dans le sud du Liban et qui annonce des frappes imminentes. Toujours au Proche-Orient, la parole se libère en Syrie, 18 mois après la chute de Bachar al-Assad. Le musée national de Damas accueille en ce moment l'exposition du caricaturiste Saad Adjo, longtemps exilé en Suède. La chute du régime Assad lui permet de présenter ses dessins satiriques avec comme sujet de prédilection l'ancien président syrien et sa famille. Mais les rires d'aujourd'hui n'effacent pas totalement la peur d'hier après plus d'une décennie de guerre civile. Reportage Mohamed Erami.
Au cœur du musée national de Damas, les visiteurs déambulent entre les caricatures de Bachar al-Assad et de son père Hafez. Des dessins qui auraient autrefois pu conduire leur auteur en prison. Pour Sana Yazidi, fondatrice de l'organisation Mémoire créative de la révolution syrienne, cette exposition est aussi une manière de mesurer l'évolution du pays depuis la chute du régime.
La peur de Bachar et de Hafez a beaucoup reculé. Mais je vous dis, a beaucoup reculé. Je ne vous dis pas, elle a disparu. Moi, je sens encore la peur chez les gens.
Dans les allées du musée, les visiteurs observent les dessins, sourient, prennent des photos, mais certains avouent ressentir encore une forme d'autocensure. C'est le cas de Shada, 23 ans.
J'ai envie de rire devant les caricatures, mais j'ai peur de rire. J'ai l'impression de ne pas avoir encore le droit.
Pour pour Saad Ajo, qui a passé une grande partie de sa carrière à l'étranger. Exposé aujourd'hui à Damas révèle presque du symbole.
Mon rêve, c'était un jour d'exposer en Syrie, à Damas, mais je n'aurais jamais imaginé le faire au Musée National. Rien que de voir mon travail exposé ici me procure une émotion spéciale.
Une exposition qui raconte autant l'histoire d'un artiste que celle d'une société qui apprend encore à vivre sans la peur imposée pendant plus d'un demi-siècle par la famille Assad. Mohamed Erami, Damas, RFI.
RFI 10h06, à Addis Abeba, le gouvernement éthiopien dénonce une offensive imminente des forces tigréennes.
Le spectre d'une nouvelle guerre qui se profile dans un éditorial publié sur Al Jazeera. Le puissant chef des renseignements éthiopiens Redwan Hussein et le ministre éthiopien des affaires est-africaines et ancien chef rebelle tigréen Gedachew Reda accusent les forces tigréennes de vouloir lancer une offensive dans les jours à venir, ce qui pourrait provoquer une nouvelle guerre 3 ans et demi après la signature des accords de Pretoria qui avait mis fin à un conflit de 2 ans entre le Tigré et les autorités. Une guerre qui avait fait, selon les estimations, 600 000 morts, Clotilde Hazard.
Il dénonce une alliance formée entre l'Érythrée et les forces tigréennes, ainsi que des forces rebelles de la région voisine Amara. Une alliance bricolée pendant des réunions semi-publiques en Éthiopie et au Soudan, affirme-t-il, dans le but de faire échouer les accords de Pretoria qui avaient mis fin à la guerre en 2022. Selon eux, les forces tigréennes sont en train de se mobiliser pour une offensive dans les jours à venir. Totalement faux, répond le Front de libération du peuple du Tigré, le TPLF, l'autorité dissidente de la région. Le mouvement accuse à son tour le gouvernement fédéral de chercher un prétexte pour déclencher la guerre. Afin de calmer les tensions qui ne cessent de croître, Olusegun Obasanjo, haut représentant de l'Union africaine, s'est rendu au Tigré jeudi. Il a rencontré le président de la région et du TPLF, Debretsion Gebremichael, afin d'éviter la reprise d'un conflit et de privilégier le dialogue pour sortir de la crise.
Explication signée Clotilde Hazard du service Afrique de RFI.
En France, le premier ministre indien Narendra Modi débarque ce samedi.
D'abord à Nice, dans le sud-est du pays, où il rencontrera le président français Emmanuel Macron, avant de se rendre à Évian, près de la Suisse, pour le sommet du G7. Les 16 et 17 juin. Une visite qui intervient dans un moment délicat pour son pays. Les tensions géopolitiques et les répercussions du conflit au Moyen-Orient pèsent sur les intérêts indiens. New Delhi qui cherche à consolider ses partenariats stratégiques et la France fait figure d'interlocuteur privilégié. La visite française de Narendra Modi vue depuis l'Inde, c'est avec notre correspondant à New Delhi, Abdoulaye Rali.
Pour l'Inde, ce G7 est l'occasion de plaider pour une désescalade au Moyen-Orient, une région dont dépendent ses approvisionnements énergétiques, une partie de son commerce maritime et la sécurité de milliers de marins indiens. La mort récente de 3 ressortissants indiens dans des frappes américaines a d'ailleurs provoqué un malaise diplomatique avec Washington. C'est dans ce contexte que Narendra Modi se rend en France. Le premier ministre indien entend mettre en avant la sécurité des voies maritimes. Pour porter ce message, New Delhi voit en Paris un partenaire influent en Europe. Cette visite permet aussi à l'Inde d'affirmer sa place dans les grands débats internationaux. Bien qu'elle ne soit pas membre du G7, New Delhi veut faire entendre sa voix. Les enjeux sont également économiques. À Nice, l'Inde déploie 127 start-up pour attirer des investisseurs européens. Enfin, sur le plan militaire, New Delhi espère faire avancer le dossier des Rafales. L'Inde souhaite acquérir 114 chasseurs français, mais exige un transfert de technologie pour renforcer son industrie de défense face à la Chine et au Pakistan. Abdullah Erali, New Delhi, RFI.
L'Inde, où un avion de transport militaire Antonov de l'armée de l'air indienne vient de s'écraser ce samedi matin à son atterrissage sur la base aérienne de Jorhat. C'est dans le nord-est du pays, c'est ce qu'a annoncé l'armée sans donner de bilan immédiat de l'accident ni préciser le nombre de personnes à bord de l'appareil.
Retour en France où près de la moitié des Français ne partiront pas en vacances cette année.
Ils sont 4 sur 10 dans cette situation, comme le dévoile un sondage d'Ipsos pour le Secours Populaire paru à l'occasion des 90 ans de la loi de 1936. À l'époque, le Front Populaire avait instauré 2 semaines de congés payés pour les travailleurs français. Aujourd'hui, les inégalités persistent toujours autour des départs en vacances, Thomas Douéré.
Les raisons qui empêchent les gens de partir en vacances sont de 2 ordres, selon Émilie Schaff, membre du Secours Populaire.
Vous avez la première cible qui pense que c'est pas pour elle, ou qui ont trop de contraintes en fait à l'idée de partir en vacances. Et puis sinon, vous avez l'autre partie où là c'est vraiment financier. Ils ne peuvent pas, au vu du contexte actuel, imaginer en fait un départ en vacances sans l'accompagnement de certaines associations comme la nôtre.
1 enfant sur 3 et 1 adulte sur 2 ne partent pas en vacances chaque année. Des chiffres qui n'ont pas changé depuis 10 ans. Si la précarité persiste, c'est sa forme qui a changé.
Depuis quelques ans, c'est vraiment la précarité énergétique. Quand vous avez une facture d'électricité de régularisation qui arrive où il y a plus de 2000 euros.
Certes sanglant à enfouir sous 1000 quêtes de soi, quelques 1000 crimes, celui d'un frère très...
traître apeuré, rongeant ses nerfs, éclipsant le prince alors exilé. Celui d'une mère reine sous chrysanthème, fier adultère, raillant quelques cris sans trêve. Celui d'un fils indécis, obscurci par la lame sous laquelle Polonius périt. Maladresse, crime, l'œil vengeur salit la grâce divine et sonne son heure triste. Le sang se mute en larmes pendant que les morts parlent, c'est l'étrange chute en vrac. Des mains sanglantes par dizaines aux violences abscènes, où sa prétendre l'ivresse d'une âme saine. Puisqu'alors les retours sans appel sont au centre à peine, pendant que chaque vie tourne à perte. Vaste peuple, vaste peine, poison fuyant, épousant les vastes pleurs, autant de cris de l'esprit et du sang. Le gage du cœur s'est perdu dans les âges du temps. L'auteur en ses pages, nullement dupe de ses actes, annonce le présage durement. Avec ou sans cœur, les piques fusent entre les tirs d'une assemblée, broyant toute cynique figure. Le roi dicte alors, ce sont nos larmes que ton acte fait répandre. Va, prépare-toi sous les ordres et prie qu'au plus loin ton crime n'apparaisse moins fort. Le droit du deuil, le temps d'un siège à ton âme en guerre. Vois cette veuve couler dans l'enfer. Histoire tragique d'Hamlet, Danemark, ici même, scène 3 de l'acte 4. En termes trompeurs, les quêtes se voilent et l'épaisse muraille se heurte à l'appel d'une âme. Mais celle d'une arme en tête à laquelle durable le roi sans tête est pire que son meurtre infâme. Sans grade à l'appui, des yeux sans faille à la fuite, tout s'enflamme pour que la suite s'emballe et pour que se livre l'âme. Se meurt l'homme d'apparat, un cadavre que la tragédie embrasse. Dès leur accepté, rumeur galopante, car le peuple gronde sur Polonius et son étrange mort. En l'enterrant si vite, ce torfide au fini fragile, une fillette à la raison morte. Et porté par un cœur en pièces, sous l'âme en peine, se dresse le deuil du cœur et du père. Mille bruits, certes sanglants à enfouir, sous une quête de soi, quelques mille crimes, logique vide. Les cieux se fâchent, aiguisent leur mine fine, que la frénésie relâche. La herte vise aussi l'acte vil, amnésique de ce que l'amour fit, triste que l'âme oublie. Puisqu'alors les retours sans appel sont au centre à peine, pendant que chaque vie tourne à perte.
Tout leur matériel leur sert à se mettre sur la même longueur d'onde que les gens qui écoutent cette fréquence. Il ne reste donc plus qu'une solution, il faut diminuer le volume de votre radio. Le mieux serait de la débrancher.
Débrancher la radio? Oh nom de Dieu, il a perdu la tête!
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9.
Je t'en prie, je ne plaisante pas, il faut que tu éteignes ta radio!
Mais enfin, pourquoi veux-tu que je fasse ça?
here's my chance to see if I still bleed. Still my tongue before I lose my head. Lie no more, dear, with things you left unsaid. Oh, darling, please help me believe the good you say you see in me. I know I could be what you need.
Cette idée géniale. J'ai laissé carte blanche à Gérard et je dois dire que c'est pas du tout ça que j'attendais. Non, au début l'idée était intéressante de présenter des jeunes un peu différents, mais inverse ça non. Alors ça, je suis comme vous. Hein. C'est beaucoup trop choquant. Non, ça vraiment, Gérard, t'as dû m'en parler. Hein.
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4 dans le sud de l'Eure 95.9. Principe Actif, le mix des cultures.
Yeah, yeah, confuse me. Tell me why you dey confuse me, oh baby. Your body too attractive, and the way I fall for you, it dey be like magic. Oh no, now boy you tell me I go day, and I no go fit to come another day. Oh no, I go dey call you my baby. Now together we go there, we no go fade away. Why be say that you dey my mind? Say you no be option, no be lie. Oh yeah, make you run away, make you fly. And so we enter part two. Stepping at the place, everybody confused. Everything move, I like to smoke and booze, oh yeah, make you feel good. Oh, do, do. Now when you did, where you go day? And I don't go fit to come another day. But I go to call you my baby. Now together we go there, we no go fade away. Why we say that you in my mind? Say you no be option, no be lie. Oh yeah, make you run away, make you fly away. Oh no, no, no. Why we say that you in my mind? Say you no be option, no be lie. Oh yeah, make you fly away, make you run away.
So when you call on me, call on me.
Don't say I won't pull up for you.
Don't say I won't.
Avec une arme tout se négocie. Ça on le savait depuis un bail, mais ça démotive. Pourquoi le risque et le danger s'appeler aux filles? Et comment un père de famille peut être pédophile? Ou n'importe qui d'autre? Pourquoi timide Scarface alors que Tony finit le pif dans un kilo? On sait ce qu'il vaut, il a crevé Manny. Flinguer son meilleur pote, pourtant les minots l'admirent. Comment des gens prennent la prison ferme sur un faux litige? Alors que les flics prennent que dalle pour un homicide. Et les hommes politiques, ils volent plus